Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Première partie, la vie. 5. Ramener l'esprit en lui-même. La posture. Les maîtres disent, si vous créez des conditions favorables dans votre corps et votre environnement, la méditation et la réalisation s'élèveront automatiquement. Parler de la posture n'est pas une pédanterie ésotérique. Tout l'intérêt d'une position correcte, c'est de créer un environnement particulièrement inspirant pour la méditation et pour l'éveil du Rigpa. Un rapport existe entre la position du corps et l'attitude de l'esprit. Le corps et l'esprit sont reliés et la méditation s'élève naturellement. Lorsque votre posture et votre attitude sont inspirées. Si vous êtes assis en posture de méditation et que votre esprit n'est pas pleinement en harmonie avec votre corps, si vous êtes par exemple préoccupé ou angoissé, vous éprouverez un malaise physique et les difficultés auront tendance à se manifester plus facilement. Par contre, un état d'esprit calme et inspiré influera grandement sur votre position et vous permettra de la maintenir plus naturellement et sans effort. C'est pourquoi il est essentiel de parvenir à une union entre l'attitude corporelle et la confiance née de la réalisation de la nature de l'esprit. La posture que je vais vous décrire ici diffère peut-être légèrement de celle dont vous avez l'habitude. Elle provient des enseignements anciens du Dzogchen. C'est celle que mes maîtres m'ont enseignée et je la trouve extrêmement efficace. Il est dit dans les enseignements en Dzogchen que votre vue et votre posture devraient être comme une montagne. Votre vue est la totalité de votre compréhension de la nature de l'esprit. Et c'est cela que vous apportez à votre méditation. Ainsi, la vue se traduit par la posture en même temps qu'elle l'inspire, exprimant le cœur même de votre être dans votre position assise. Soyez assis avec toute la majesté inaltérable et inébranlable de la montagne. La montagne est complètement naturelle et bien établie sur ses bases, quelle que soit la violence des vents qui l'assaillent ou l'épaisseur des nuages sombres qui tourbillonnent à son sommet. Assis comme une montagne, laissez votre esprit s'élever, prendre son essor et planer dans le ciel. Le point essentiel de cette posture est de garder le dos droit, comme une flèche ou une pile de louis d'or. L'énergie intérieure, ou prana, circulera alors aisément dans les canaux subtils de votre corps. Et votre esprit trouvera son véritable état de repos. Ne forcez rien. La partie inférieure de la colonne vertébrale possède une cambrure naturelle. Celle-ci doit être détendue tout en restant droite. Sentez que votre tête repose sur le cou de façon souple et agréable. Ce sont les épaules et la partie supérieure de votre thorax qui supportent le dynamisme et la grâce de la posture. Leur maintien doit exprimer une force dépourvue de raideur. Asseyez-vous, jambes croisées. Il n'est pas nécessaire de prendre la position du lotus, sur laquelle on met davantage l'accent dans les pratiques avancées de yoga. Les jambes croisées expriment l'unité de la vie et de la mort, du bien et du mal, des moyens habiles et de la sagesse, des principes masculins et féminins, du samsara et du nirvana, l'humour de la non-dualité. Il se peut que vous préfériez vous asseoir sur une chaise, les jambes détendues. Assurez-vous alors que vous gardez toujours le dos bien droit. Dans la tradition de méditation qui est la mienne, nous gardons les yeux ouverts. C'est là un point très important. Cependant, si vous êtes facilement dérangé par des perturbations extérieures, il peut vous sembler utile au début de la pratique de les fermer un moment et de vous tourner tranquillement vers l'intérieur. Une fois établi dans le calme, ouvrez progressivement les yeux. Vous découvrirez que votre regard est devenu plus paisible et plus serein. Abaissez-les maintenant et regardez juste devant vous, le long de votre nez, selon un angle de 45 degrés environ. D'une manière générale, voici un conseil pratique. Quand votre esprit est très agité, il vaut mieux regarder vers le bas. Quand il est morne ou somnolent, dirigez plutôt votre regard vers le haut. Lorsque votre esprit s'est apaisé et que la clarté du discernement commence à se manifester, vous vous sentez prêt à lever les yeux. Ouvrez-les alors davantage et dirigez votre regard dans l'espace, droit devant vous. C'est le regard que l'on recommande dans la pratique Dzogchen. Dans les enseignements Dzogchen, il est dit que votre méditation et votre regard devraient être vastes comme l'étendue de l'océan, ouverts sans limite, embrassant tout. De même que votre vue et votre posture sont inséparables, ainsi votre méditation inspire-t-elle votre regard. Ils se fondent l'un dans l'autre et deviennent à ce moment, ne portez pas votre attention sur un objet particulier. Revenez légèrement en vous-même et laissez votre regard s'élargir et devenir de plus en plus vaste et spacieux. Vous constaterez alors que votre vision elle-même est devenue plus ample et que votre regard exprime davantage de paix, de compassion, d'équanimité et d'équilibre. Le nom tibétain du Bouddha, de la compassion, est Chenrezi. Chen signifie l'œil. Re, le coin de l'œil. Ezi, voir. Cela veut dire que de ses yeux emplis de compassion, Chenrezi perçoit les besoins de tous les êtres. Laissez de même la compassion qui émane de votre méditation rayonner doucement par vos yeux. Votre regard deviendra alors le regard même de la compassion, semblable à l'océan et embrassant tout. On garde les yeux ouverts pour plusieurs raisons. D'abord, l'on a moins tendance à somnoler. Ensuite, la méditation n'est pas un moyen de fuir le monde ou de s'en échapper par le biais de l'expérience extatique d'un état de conscience altéré. C'est au contraire un moyen direct pour nous aider à nous comprendre véritablement et à nous relier à la vie et à l'univers. C'est pourquoi dans la méditation, vous gardez les yeux ouverts. Au lieu de vous couper de la vie, vous demeurez réceptif, en paix avec toute chose. Vos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, demeurent naturellement en éveil, tels qu'ils sont, sans que vous poursuiviez leur perception. Dzogchen Rinpoche disait: bien que différentes formes apparaissent, elles sont en essence vides. Pourtant, dans la vacuité des formes sont perçues. Bien que différents sons soient entendus, ils sont vides. Pourtant, dans la vacuité, des sons sont perçus. Différentes pensées s'élèvent aussi. Elles sont vides. Pourtant, dans la vacuité, des pensées sont perçues. Quoi que vous voyiez ou entendiez, ne vous y attachez pas. Laissez-le tel quel. Laissez l'ouïe dans l'ouïe, la vue dans la vue, sans permettre à la saisie dualiste d'infiltrer vos perceptions. Selon la pratique spéciale de la luminosité dans le Dzogchen, toute la lumière de votre énergie de sagesse réside dans le centre d'énergie du cœur, qui est relié aux yeux par des canaux de sagesse. Les yeux sont les portes de la luminosité. Vous devez les garder ouverts afin de ne pas bloquer ces canaux de sagesse. Peut-être ne pratiquez-vous pas cela maintenant, mais gardez les yeux ouverts Cela crée des circonstances favorables pour votre pratique future. Lorsque vous méditez, ayez la bouche entrouverte, comme si vous étiez sur le point d'émettre un « ah » profond et relaxant. Il est dit que si l'on garde la bouche légèrement entrouverte en respirant principalement par celle-ci, les souffles karmiques qui créent les pensées discursives ont en principe moins de chances de s'élever et de créer des obstacles dans votre esprit et dans votre méditation. Laissez vos mains reposer confortablement sur vos genoux. C'est ce qu'on appelle la posture de l'esprit à l'aise. Il y a dans cette posture une étincelle d'espoir, un humour injoué, inspiré par la compréhension secrète que nous possédons tous la nature de Bouddha. Ainsi, lorsque vous prenez cette posture, vous imitez avec légèreté le Bouddha. Reconnaissant votre propre nature de Bouddha et l'encourageant réellement à se manifester. En fait, vous commencez à éprouver du respect pour vous-même en tant que Bouddha potentiel. En même temps, vous reconnaissez encore votre condition relative. Mais puisque vous vous êtes laissé inspirer par une confiance joyeuse en votre propre nature de Bouddha, il vous est plus facile d'accepter vos aspects négatifs. Et vous pouvez vous en accommoder avec davantage de bienveillance et d'humour. Lorsque vous méditez, invitez-vous ainsi à ressentir l'estime de soi, la dignité, l'humilité et la force du Bouddha que vous êtes. Je dis souvent qu'il suffit de se laisser inspirer par cette confiance pleine de joie, car la méditation s'élèvera ainsi spontanément. Trois méthodes de méditation. Le Bouddha enseigna 84 000 façons de dompter les émotions négatives et de les apaiser. Il existe dans le bouddhisme d'innombrables méthodes de méditation. Trois techniques m'ont paru particulièrement efficaces pour le monde moderne. Chacun pourra les utiliser et en tirer profit. Ces techniques sont les suivantes. Utiliser un objet, réciter un mantra et observer la respiration. Utiliser un objet. Dans cette première méthode, l'esprit se pose légèrement sur un objet. Ce peut être un objet dont la beauté naturelle vous inspire particulièrement, telle une fleur ou un cristal. mais un support qui évoque pour vous la vérité, comme par exemple une représentation du Bouddha ou du Christ, ou plus particulièrement de votre maître, est encore plus puissant. Le maître est votre lien vivant avec la vérité. Et en raison du lien personnel qui vous unit à lui, le simple fait de voir son visage vous relie à l'inspiration et à la vérité de votre propre nature. Beaucoup se sont découverts une affinité particulière avec la photographie de la statue de Padmasambhava, appelée « Elle me ressemble ». Il s'agit d'une statue d'après nature, réalisée au Tibet et bénie par Padmasambhava au 8e siècle. C'est lui qui, grâce à la puissance de sa réalisation spirituelle, établit l'enseignement du Bouddha au Tibet. Les Tibétains l'appellent le second Bouddha, ou affectueusement Guru Rinpoche, ce qui signifie « précieux maître ». Dilgo Khyentse Rinpoche dit: la noble terre de l'Inde et le Tibet, pays des neiges, connurent un très grand nombre de maîtres extraordinaires et incomparables. Cependant, parmi eux, celui qui, en cette époque difficile, fait preuve de la plus grande compassion et du plus grand pouvoir de bénédiction envers les êtres, est Padmasambhava, qui incarne la compassion et la sagesse de tous les Bouddhas. L'une de ses qualités est de pouvoir accorder instantanément ses bénédictions à quiconque lui adresse ses prières, et quel que soit leur objet, d'exaucer immédiatement tous nos souhaits. Dans cette inspiration, placez une reproduction de la statue à hauteur des yeux, puis laissez votre attention se poser doucement sur son visage, et plus précisément sur son regard. Ce regard très discret, d'une tranquillité profonde, semble jaillir de l'image pour vous conduire à un état de conscience clair, libre, de toute saisie. L'état de méditation. Laissez alors votre esprit dans la paix et la tranquillité, dans la présence de Padmasambhava. La récitation d'un mantra. Une seconde technique, largement utilisée dans le bouddhisme tibétain, ainsi que dans le soufisme, le christianisme orthodoxe et l'hindouisme, consiste à unir l'esprit au son d'un mantra. La définition du mantra est « ce qui protège l'esprit ». Ce qui protège l'esprit de la négativité, ou encore ce qui vous protège de votre propre esprit, est appelé mantra. Quand vous vous sentez agité, désorienté, ou dans un état de fragilité émotionnelle, réciter ou chanter un mantra de façon inspirante peut modifier complètement votre état d'esprit, en transformant son énergie et son atmosphère. Comment cela est-il possible ? Le mantra est l'essence du son et l'expression de la vérité sous forme de son. Chaque syllabe est imprégnée de puissance spirituelle. Elle est la cristallisation d'une vérité spirituelle et vibre de la grâce, de la parole des Bouddhas. Il est dit que l'esprit chevauche l'énergie subtile du souffle, le prana, qui imprinte les canaux subtils du corps et les purifie. Quand vous récitez un mantra, vous chargez votre souffle et votre énergie de l'énergie même du mantra, ce qui influe directement sur votre esprit et votre corps subtil. Le mantra que je recommande à mes étudiants est Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum, que les Tibétains prononcent Om Aung Benza Guru Padma Siddhi Hum. C'est le mantra de Padmasambhava, le mantra de tous les Bouddhas, de tous les maîtres et de tous les êtres réalisés. À notre époque violente et chaotique, ce mantra possède une puissance de paix, de guérison, de transformation et de protection incomparable. Récitez-le doucement, avec une attention profonde, et laissez votre souffle, le mantra et votre conscience graduellement ne faire qu'un. Ou bien chantez-le avec inspiration et détendez-vous dans le profond silence qui s'ensuit parfois. Même après une vie entière imprégnée de pratique, il m'arrive encore parfois d'être émerveillé par le pouvoir du mantra. Il y a quelques années de cela, j'animais à Lyon un stage auquel participaient 300 personnes. J'avais parlé toute la journée, mais le public semblait vouloir profiter au maximum de ma présence et me poser, sans pitié ni relâche, question sur question. À la fin de l'après-midi, j'étais complètement épuisé et une atmosphère morne et lourde planait sur toute la salle. Alors je chantais le mantra que je vous ai enseigné ici. Le résultat fut surprenant. En quelques instants, je sentis la totalité de mon énergie revenir. L'atmosphère de la salle fut transformée et l'auditoire m'apparut à nouveau animé et plaisant. J'ai connu à maintes reprises des expériences de ce genre. Et je sais donc qu'il ne s'agissait pas là d'un miracle accidentel. Dans la prochaine émission, sera défini plus avant le sens de ce mantra. Om Ahung Benza Guru Pema Siddhi Hung. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.